France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et traducteur aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi d'évoquer un livre événement, écrit comme la suite de mai 68, dans la même euphorie, avec ses flux et ses coupures, ses images et ses courts-circuits, avec ses corps sans organes et ses machines désirantes. Ce livre qui a fait date, c'est l'Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari, Anti-Œdipe et avant tout contre la psychanalyse.
Depuis mai, moi j'ai l'impression que y a le discours psychanalytique traditionnel ne prend plus.
Nanterre,
ou du moins il prend encore, mais sous des
Gilles Deleuze s'explique sur l'Anti-Œdipe devant des étudiants.
En allant chez le psychanalyste, ils vont se faire la lettre œdipianiste. Ils vont se faire faire à papa, maman, petit frère, tout ça, qui se font rendre gâteux. Alors c'est peut-être pas plus mal parce qu'ils vont mal avant, mais que c'est une espèce de gâtisme généralisé et que, en tout cas, ils y vont, mais ils n'y croient plus. Alors évidemment, un livre qui leur dit, en effet, Œdipe c'est une honte, c'est une vraie blague, ils sont contents parce que c'est des choses qu'ils savent. Ou c'est des choses qu'ils ont envie de dire, ou des choses qu'ils ont envie d'entendre dire. Ce qui ne les empêche pas de se faire analyser. Il y en aura encore pour 10 ans, ils vont analyser. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça prendra de moins en moins. Maintenant, on n'a aucun souci de faire du freudisme ou pas du freudisme, de se situer même par rapport à la psychanalyse. On a un grand souci de dénoncer... même pas les mauvaises applications de la psychanalyse, de dénoncer la psychanalyse tout court.
Bonjour Claro.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes écrivain, traducteur, éditeur. Vous êtes directeur éditorial des éditions Inculte. Vos deux derniers livres, un essai, L'échec, est paru aux éditions Autrement et Des milliers de ronds dans l'eau, chez Actes Sud en janvier. Pourquoi avez-vous choisi Deleuze? Et pas n'importe quel livre de Deleuze, même si on va en évoquer un autre, notamment ses cours sur la peinture. Pourquoi avoir choisi l'Anti-Œdipe dont il parle dans cet archive de 1972 au moment de sa sortie?
Parce que c'était une lecture très importante qui a eu plusieurs étapes. On va dire que la première fois où je l'ai vu entre les mains sur les conseils de ma sœur qui faisait de la philo, c'était en 78 et son prof lui avait conseillé, donc elle me le conseille. Mais bon, moi en 78 j'ai 16 ans, donc vous pensez bien que mettre le nez dans l'Anti-Œdipe à 16 ans quand on a quasiment aucune base philosophique, c'était un peu comme si on avait confié une poupée gonflable à un porc-épic. Mais à la fois je trouvais que c'était un objet très sexy. Et donc, je m'y suis remis dedans en 1980.
Donc, 2 ans plus tard, vous avez attendu la majorité. Voilà. Ah non, on avait la majorité à ce moment-là?
On l'aura jamais.
Ah.
Mais, et donc là, je me mets à le lire. Et évidemment, ça rentre plus en résonance avec des tas de lectures que je fais. Et aussi, ça m'ouvre, évidemment, à des tas d'autres auteurs. Et la première chose qui me frappe dans ce livre, qui est quand même un livre de philosophie, c'est l'abondance de références littéraires. Et pas que philosophique ou anthropologique, sociologique, même des références à la musique, des références au cinéma, et du coup ça devient un petit peu comme pour moi comme un manuel des Castors Junior, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je prends des notes et ça me permet à la fois de relire différemment des auteurs que je commençais à connaître comme Artaud et Beckett. Et puis, ça m'ouvre sur des tas d'autres auteurs, comme, je sais pas, on peut citer Gerasim Luka, Louis Wolfson, sur lequel Deleuze avait écrit, etc. Donc, j'avance en découvrant à la fois la pensée de Deleuze, la façon dont ils agencent les concepts, et à la fois tout le magma comme ça référentiel qui ouvre à des tas de choses, qui permet de c'est vraiment des lignes de fuite pour le coup.
Au moment où vous l'ouvrez et que vous le lisez, Claro, donc à vos 18 ans, alors déjà première question, vous pensez qu'il s'est passé quoi en 2 ans dans votre vie entre 16 et 18 ans? Je me sentais pas spécialement différente moi entre 16 et 18 ans, enfin Deleuze, l'Anti-Œdipe m'aurait paru aussi opaque entre 16 et 18.
Non, je pense que c'est l'accumulation de lectures entre 16 et 18 ans. Hein. C'est quand même des années où on lit énormément. d'avoir été plongé dans Artaud, mais peut-être de pas avoir les clés, forcément, en tout cas pas les clés deleuziennes pour lire Artaud, qui fait que du coup je me dis bah tiens, il parle quand même de choses qui sont devenues essentielles pour moi, et donc je vais pouvoir m'agripper comme ça à certaines références pour entrer dans ces concepts. Et surtout voilà, c'est un livre de philo qui est assez décomplexant, je trouve. Bon, on en lira des bouts sûrement, et on voit bien qu'on n'est pas, voilà, c'est pas Kant, c'est pas Hegel.
C'est pas du Platon.
Il y a quelque chose de complètement décomplexé. Il y a une écriture qui est, moi je trouve qui est très belle, hein, qui est une vraie écriture, hein, c'est-à-dire que, et puis c'est quand même une époque où on a des philosophes qui sont des écrivains. Il y a Foucault qui a quand même un style classique absolument admirable.
Ah oui, mais Foucault, lire du Foucault, alors c'est deux styles très différents, mais c'est vrai qu'on peut les comparer, Deleuze et Foucault, parce que c'est des philosophes qui, en fait, sont lus. Leurs livres sont lus, c'est important de le dire, parce qu'ils ont des styles qui sont, magnétiques, d'une certaine manière.
Oui, et puis ils ont tous les deux un rapport très fort à la littérature. On peut voir ça aussi bien dans les entretiens de Deleuze avec Parnet, qui s'appelle Dialogue, que, par exemple, le texte de Foucault sur Raymond Roussel. Donc, ça permet d'avoir des écrivains qui ont un lien quand on n'est pas philosophe soi-même, et surtout qui ont une écriture qui à laquelle on peut adhérer ou pas. Je pense que l'écriture de l'anti-Œdipe a beaucoup étonné. Enfin, c'est évident, mais elle est étonnante parce qu'ils se sont mis à deux.
Et elle est étonnante encore aujourd'hui, Clara Rosser, que lire l'anti-Œdipe. Alors, est-ce que ça vous a fait cet effet-là quand vous l'avez découvert ? Moi, je l'ai lu cette année, donc je suis vraiment une novice. On a quand même l'impression de débarquer dans une soirée à 4h du matin où Deleuze et Guattari sont complètement ivres et on arrive en pleine conversation et on saisit des bouts. Je ne prétends pas qu'on saisit tout. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont envie d'être complètement compréhensibles ? On ne sait pas si c'est vraiment ça leur enjeu. Mais enfin, en tout cas, on se laisse complètement porter par leur style, leur flux, par le fait... Ben, y a une joie aussi. Puis alors, quand ils critiquent, mais c'est comme dans l'archive qu'on a entendu, il y a un plaisir de la critique... Méchanceté, le terme serait un peu fort, mais sur la psychanalyse, c'est très acide.
Oui, parce que c'est des philosophes qui ont à cœur de produire des concepts. Et ils veulent que ces concepts soient complètement dynamiques. Donc, ils les bricolent dans tous les sens. Ils n'arrêtent pas non pas de se contredire, mais de laisser ces concepts se contredire en disant ça, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui est étonnant dans l'anti-Œdipe, c'est qu'il y a un ton, on pourrait dire dans une première approche, qui est très péremptoire. Ils vont dire, le désir, c'est ça, les machines désirantes, c'est ça, on fait ceci, on fait cela. Mais ils passent leur temps à moduler en disant, oui, mais à la fois, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des telles conditions, ils complexifient, et ils font ce qu'ils appellent rhizome, hein, c'est-à-dire que voilà, ça part dans tous les sens, ça se rebranche, ça digresse, et du coup, ça décomplexe, parce que c'est pas du tout des catégories kantiennes où c'est comme ça et pas autrement.
Est-ce que vous l'avez conseillé déjà à d'autres que vous? Comme sœur, vous avez conseillé de le lire. Est-ce que vous l'avez conseillé à des amis, et comment vous leur présentez ce livre? Parce qu'il faut quand même un peu présenter, peut-être pour les auditeurs, voilà.
Alors, je suis pas très prosélyte, parce qu'en plus, il y a un côté chaque fois jardin secret. Non, mais c'est vrai que je pense que je l'ai pas mal imposé à ma fille Louison, qui a dû rentrer dedans. Après, il y a aussi...
À partir de quel âge, pardonnez-moi, l'avez-vous imposé à votre fille?
Bon, je pense que j'ai attendu qu'elle ait le même âge que moi.
Ah oui, quand même. Vous l'avez pas fait à partir de 4 ans.
Non, mais bon.
Quoique, je pense en fait qu'un enfant comprend mieux.
Il y a même un petit livre de Deleuze pour enfants qui avait été fait. Et voilà. Et après aussi, il y a des. C'est une espèce de communauté en fait, les Deleuziens, enfin les Deleuziens de Deleuze et Guattari. Je pense qu'ils se reconnaissent entre eux.
À quoi? C'est quoi vos caractéristiques?
C'est une façon d'aborder les choses justement, tout ce que a pu nous apprendre la lecture de l'Anti-Œdipe. Et de Mille Plateaux, quand même, qui est une suite très très importante. C'est une façon de voir les choses sous l'angle de la vitesse, de l'intensité, des agencements, de tout ce qui se machine et qui se bricole. La vision de Deleuze et Guattari, c'était quand même qu'ils voulaient que leur livre soit comme une boîte à outils et qu'on s'en serve. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que, donc, je le redis, ça décomplexe. Et l'intérêt, c'est pas de devenir une espèce d'épigone de Deleuze ou de leur pensée. C'est de voir en quoi tout ce qui brasse comme concept peut, en tant qu'écrivain ou musicien ou peintre, servir éventuellement.
Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez dit qu'à 16 ans, vous ne connaissiez pas assez la philosophie pour peut-être être sensible à Deleuze. À 18 ans, ça change. Mais est-ce que justement la force de l'anti-Œdipe, c'est justement de pouvoir être lu sans avoir fait de philosophie, et même peut-être, je me demande même, c'est pour ça que je parle d'un enfant de 4 ans, même sans, avec une condition, ne pas avoir fait de philosophie, pour éviter d'ailleurs de plaquer, de catégoriser, de vouloir se rattacher à des concepts déjà existants.
Peut-être, d'ailleurs, il y a, même, je ne sais plus dans quel passage, il y a toute une réflexion comme ça sur la figure de l'idiot. Non pas l'ignare, mais l'idiot, qui arrive avec des catégories plus simplifiées, qui a donc plus de place pour une expansion de la pensée. Alors, oui, je pense qu'il faut quand même quelques bases, mais en tout cas, si on les a pas, ce livre permet d'y aller à ces bases. C'est-à-dire que ça donne envie de lire Freud si on n'a pas lu Freud, ou Melanie Klein... voilà, on part dans plein de directions, mais
ça donne envie même de faire une psychanalyse.
Ça n'a pas été le cas, mais mais en tout cas, c'est quelque chose de jubilatoire, hein, pour utiliser un mot un peu banal, mais qui fait que effectivement il y a une joie. Hein, je veux dire, le grand truc quand même de Deleuze, c'était toujours de s'opposer à la pulsion de mort et aux choses négatives. Hein, il est quand même spinoziste un peu à la base.
Alors, vous l'avez dit, l'Anti-Œdipe, c'est le premier volume, en fait, de Capitalisme et schizophrénie. Le deuxième volume, c'est 1000 plateaux. Mmh. C'est sorti en 1980, alors que l'Anti-Œdipe, c'était en 1972. Mmh. Donc, quand vous le lisez, l'Anti-Œdipe, c'est au moment où sort 1000 plateaux. Et est-ce qu'on peut dire que Deleuze était vraiment une énorme star?
Je pense que c'est dès 72, effectivement, avec l'Anti-Œdipe, son statut a changé. Il a changé d'éditeur. Avant, il était au PUF, il est passé chez Minuit, donc il rejoint quand même une cohorte d'écrivains et de philosophes. Quand il fait ça en 80, je pense que entre-temps, il y a d'autres livres aussi qui sont sortis, et la renommée de Deleuze n'est plus à faire. Alors pour moi, c'est très troublant, parce que en fait, je découvre l'Anti-Œdipe vraiment l'année où sort 1000 plateaux. Donc très vite dans ma lecture, je me rends compte et j'apprends qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. Mais en revanche, le temps que je débroussaille l'Anti-Œdipe, je me mets à 1000 plateaux qu'en 83, donc un petit décalage horaire. Et là, on rentre encore dans quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus complexe. Hein. C'est un livre dont très difficile de faire le tour, et sur lequel peut-être les gens n'ont pas tellement assez réfléchi. Mais voilà, on est déjà en 80, 90, et puis arrive quand même toute une cohorte, quoi, de gens qui se disent philosophes, mais qui sont en gros des moniteurs de la philosophie, comme ça, une espèce de platiste de la pensée, que ça soit BHL. Onfray ou Luc Ferry ou des gens comme ça qui ont un mouvement de réaction et qui repoussent Deleuze. Il y a qu'à voir un des livres les plus stupides au monde qui s'appelle quand même La Pensée 68 et qui essaye de rabattre finalement ce travail énorme et conceptuel de Deleuze et Guattari qui va quand même dans plein de directions comme si c'était la suite de l'occupation de l'Odéon. Donc on voit bien qu'ils n'ont jamais lu les 900 pages de Capitalisme et schizophrénie pour croire que ça peut se réduire à ça. Le combat de Deleuze et Guattari, il est beaucoup sur la psychanalyse, mais surtout le modèle de l'œdipianisation. Mais pas que. Donc ça va, ils vont chercher du côté de l'antipsychiatrie, et puis après, ils partent dans toutes les directions. Ils vont parler de Boulez, de Woëfli, de Lindner, de peintres, etc. Et tout ça, ils sèment après dans tous les autres livres de Deleuze.
Est-ce que vous relisez régulièrement l'Anti-Œdipe?
Alors, je le relis pas régulièrement, mais des fois des passages. Puis surtout, après, une fois que j'ai découvert l'Anti-Œdipe, j'ai découvert Deleuze. Et chaque fois, la parution d'un nouveau Deleuze était quand même
un événement.
Un événement.
Donc là, les cours qui sont édités, qui sont publiés.
Ça continue encore maintenant. On est quand même 45 ans après. Il y a toujours Deleuze continue à écrire, on a l'impression. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces livres sur le cinéma qui sont incroyables. Il y a ces livres sur Bacon aussi. J'ai grandi avec Deleuze.
Est-ce que parfois, dans votre métier d'écrivain, d'éditeur, de traducteur, vous pensez à Deleuze? Je ne sais pas, par exemple, c'est peut-être une question bête, mais vous butez sur une phrase quand vous traduisez. Et vous pensez à Deleuze en vous disant, ne vois pas les choses comme ça, vous essayez de vous remobiliser autrement.
Alors, il y a plein de catégories. Alors, Deleuzien, quand on est éditeur, je suis pas sûr que ça ait vraiment un sens. En revanche, sur la traduction, c'est évident que ça fait écho avec ce que disent Deleuze et Guattari. Quand ils font des passages entiers sur ce qu'on appelle langue majeure, langue mineure, et dire qu'on écrit dans une langue à l'intérieur d'une langue, et d'expliquer que les grands écrivains qu'ils aiment, en fait, écrivent pas forcément leur propre langue, que ça soit Kafka, qui est tchèque, mais écrit en allemand, ouais. Ça peut être Beckett, qui se traduit lui-même, et avec cette idée qui est centrale, hein, qui leur vient d'un poème de Gerasim Luka qui s'appelle Passionnément, qui est sur le bégaiement. Et pour moi, ça me parle beaucoup, parce que la traduction, pour moi, c'est de l'ordre du bégaiement, pas le bégaiement purement vocal, mais c'est-à-dire que, voilà, on achoppe sur la langue, elle se dédouble, il faut la répéter, et on cherche comme ça. Après, en tant qu'écrivain, c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup influencé, mais avec cette idée qu'il fallait aussi en sortir. Par exemple, mon premier livre, une espèce d'idée comme ça de devenir chien d'un personnage. Donc là,
vous parlez de Ezelina.
Voilà. Ouais. Où il y a toute une idée comme ça,
qui date de 86, donc très ouais. Proche vraiment de votre lecture de Deleuze.
Parce qu'il y a toute une réflexion sur les devenirs dans l'anti-Oedipe, enfin surtout dans Mille Plateaux d'ailleurs, devenir animal. Ouais. Etc. Donc je vois bien, après j'ai fait un livre qui s'appelle Livre 19, où chaque chapitre effectivement porte un nom d'année avec un intitulé, et c'est vraiment une référence directe ouais. À Mille Plateaux qui aime bien donner des dates et qui est très narratif. Tous les débuts des chapitres de Mille Plateaux, ou presque, sont comme un début de roman ou un début d'énigme ou de conte ou de fable.
Et alors pourquoi vous avez dit que éditeur, ça n'aurait pas de sens d'être Deleuzien pour être éditeur ?
Ben je vois pas. Oui, alors on peut espérer peut-être que les livres qu'on publie fassent rhizome.
Oui, c'est ça. Mais il y a toujours une ligne éditoriale dans une maison d'édition.
Ouais, moi j'en ai pas tellement. J'ai plutôt des tas d'angles morts et après ils restent invisibles.
Ça fonctionne partout. Tantôt sans arrêt, tantôt discontinu. Ça respire, ça chauffe, ça mange, ça chie, ça baise. Quelle erreur d'avoir dit le ça. Partout, ce sont des machines, pas du tout métaphoriquement, des machines de machines avec leur couplage, leur connexion. Une machine organe est branchée sur une machine source. L'une émet un flux que l'autre coupe. Le sein est une machine qui produit du lait, et la bouche, une machine couplée sur celle-là. La bouche de l'anorexique hésite entre une machine à manger, une machine anale, une machine à parler, une machine à respirer, crise d'asthme. C'est ainsi qu'on est tous bricoleurs, chacun ses petites machines. Une machine organe pour une machine énergie, toujours des flux et des coupures. Le président Schreber a les rayons du ciel dans le cul. Anus solaire. Et soyez sûr que ça marche. Le président Schreber sent quelque chose, produit quelque chose et peut en faire la théorie. Quelque chose se produit, des effets de machine et non des métaphores.
Alors voilà pour les premières lignes, l'incipit de l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, paru en 1972, lu par Nicolas Berger. Alors le texte est divisé en quatre parties. La première partie, c'est sur les machines désirantes. Pourquoi avoir choisi ces premières lignes, Claro ?
Parce que c'est on entre par là, donc on voit sur la couverture Deleuze et Guattari, moi je savais pas trop qui c'était, on voit capitalisme et schizophrénie, on se dit oh là là,
voilà, ouais, qu'est-ce qui
dans
se
quoi
passe,
on s'embarque. L'anti-Oedipe, on n'est même pas sûr de savoir ce que c'est que l'Oedipe, donc voilà. Et tout d'un coup, on a une écriture comme ça qui vous rentre dedans, qui dissémine des allusions, ça nous parle de Schreber, d'anus solaire.
De chi, de baisse, enfin, faut le dire en fait, ça, on ne voilà, dit jamais
machine.
Ça dans une dans
et puis
un
en frontispice, il y a une peinture de Richard Lindner. Déjà un livre de philo où il y a des images, je pense que c'est assez nouveau à l'époque, hein. On est quand même bien avant Sebald.
Alors j'aimerais aussi insister sur une chose, c'est que le ton déconcertant a souvent été associé aussi à de l'incompréhension. C'est-à-dire que c'est un texte effectivement qui est dense, qui est fourni, qui effectivement impose de se projeter d'une autre manière dans des concepts qu'on pensait connaître comme le désir par exemple. C'est vraiment une théorie sur le désir, l'anti-Oedipe. pour Deleuze et Guattari, le désir n'est pas fondé sur le manque, mais vraiment sur une production. Le désir produit du réel. Et en fait, cette incompréhension, elle peut se justifier à certains moments. Mais là, quand on lit, on se laisse surtout complètement porter par ce ton-là.
Ouais, parce que leur grande idée, c'est de... C'est la machine désirante.
Alors, qui n'est pas dit, d'ailleurs, dans ses premières lignes.
Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir l'impression qu'ils ont une vision, justement, mécaniciste. Leur langage est très technique. Ils expliquent que c'est comme de la connectique. Il y a des flux, etc. C'est une espèce de plomberie non métaphysique, très étrange au début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que tout ce discours, si encore on peut parler de discours, est là pour produire des concepts. Donc, on ne va pas tomber sur des idées, des noumènes ou des concepts préexistants, tout va être défini. Alors, il part du désir et puis après, il nous emmène sur des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Je veux dire, le concept du devenir animal, la visageïté, qui sont des idées.
C'est quoi
ça.
La visageïté?
Alors,
c'est dans l'Anti-Oedipe,
ça c'est
dans Mille Plateaux.
Non, c'est dans Mille Plateaux où voilà, ils ont toute une réflexion sur le visage, comment le visage est perçu d'une façon très picturale ou d'une façon très étrange. Ils parlent beaucoup de Proust comme ça quand le narrateur est face au visage d'Albertine et il y a une espèce de zoom, de gros plan sur les taches de rousseur. Enfin, voilà, il y a une façon d'aborder des territoires. Hein. D'ailleurs, la déterritorialisation, c'est un de leurs concepts très intéressants. Mais au bout d'un moment, je veux dire, comme on est porté quand même par leur enthousiasme et leur esprit critique, eh ben on apprend à maîtriser plus ou moins bien, de façon plus ou moins confuse, tous ces petits concepts qui doivent marcher ensemble, mais surtout dont on doit faire quelque chose nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment ça qui les intéressait. Après, Deleuze, il passe à autre chose. Tous ces livres sont pas des applications de la schizoanalyse qu'il a mis avec Guattari. Ça, c'est un moment qu'ils ont tous les deux, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Guattari aide Deleuze à devenir un peu autre chose et réciproquement, quoi. Et c'est là, ils sont dans la philosophie pure parce que c'est une vraie histoire d'amitié.
Oui, voilà, parce qu'il faut préciser quand même que Guattari, lui, il est psychothérapeute, il est du côté de la psychanalyse, du côté de la clinique de Laborde. Et vraiment, Deleuze, c'est un prof de philo. Jusque-là, il a écrit des textes très classiques de philosophie sur Hume, notamment. Enfin, il a vraiment fait de l'histoire de la philosophie, ce qu'il va refaire un petit peu après, mais évidemment d'une autre manière. Mais là, dans ce texte-là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on l'a entendu dans l'archive, on l'entend dans le titre, c'est un texte contre la psychanalyse, c'est un texte qui va redéfinir le désir comme production, et pourtant là, dans ses premières lignes, on est dans quelque chose de très descriptif. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec Deleuze et Guattari, je me dis « Ah, en fait, autour de moi, il y a des machines, je suis une machine, mon corps... » est une machine, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus une machine qui serait moi, c'est-à-dire que tout se connecte et il y a effectivement quelque chose de l'ordre du pratique. On est tous bricoleurs, il nous dit. Moi, je trouve que ça redéfinit même, mais je ne sais pas, le rapport qu'on a par exemple tous les deux, là, Claro.
Et surtout, ce qu'ils veulent dire, c'est que si même on est des machines, ou en tout cas on est machiné avec d'autres mécanismes, il y a un moment où il explique que tout est appelé à se détraquer. Il explique par exemple que le capitalisme ne marche que parce qu'il se détraque. Et de même, nous en tant que machines désirantes, on peut essayer de créer comme ça des lignes de fuite. Alors c'est intéressant cette notion de ligne de fuite parce que c'est pas du tout la fuite.
Oui, comment vous le comprenez? Comment vous la comprenez?
Par exemple de Mono qui est l'esquive, etc. Il explique bien, c'est pas fuir au sens de s'échapper, s'enfuir, c'est faire fuir les choses. Donc c'est-à-dire qu'on se met pas à l'écart, on reste à l'intérieur des choses et on les fait fuir. C'est-à-dire qu'on les empêche en fait de ce qu'il appelle se territorialiser, se fixer, se figer. Si on estime que tout est une question de vitesse, de flux, d'intensité, il faut jouer avec ça et il faut toujours empêcher que y ait ce qu'il appelle rabattement ou surcodage.
Comment vous interprétez cette phrase qu'on a entendue, le président Schreiber a les rayons du ciel dans le cul? Anus solaire, c'est de la provocation?
Non.
C'est pour dire qu'on est ailleurs, qu'on n'est pas dans de la philo à la Kant.
Lui, il fait une référence justement au président Schreiber, qui vivait une psychose très particulière, où effectivement, il pensait que Dieu lui envoyait des rayons de soleil dans le fondement pour le corriger, etc. Et il prend cet exemple-là parce que c'est ce qui échappe pour lui justement à l'explication traditionnelle de la névrose, puisque leur, quand même leur grande chose, c'est pas que contre l'Œdipe, c'est aussi contre la névrose où ils opposent la psychose que, et surtout le cheminement qui fait que ce qu'on appelle, on va dire, une forme de folie en fait existe. Dans différentes strates, et alors effectivement ça peut aboutir à une psychose et à quelque chose qui donc est figé de nouveau, soit figé par le patient, soit figé aussi par
les catégories
et par la médecine, voilà. Par la psychiatrie, la médicalisation, mais en tout cas il y a une, pour eux voilà, le schizo, mais c'est une, il crée une figure de schizo comme il crée une figure de un peu de fou du roi et de personnage pour l'opposer effectivement à tout ce que eux détestent, qui est l'Œdipe, qui est le papa, le maman.
D'ailleurs, à la fin, le dernier chapitre, c'est pour une schizo-analyse. Donc, il y a le président Schreber, il y a Antonin Artaud. On va en reparler. Et ce qui est vraiment, c'est que ces figures, en fait, du schizophrène sont là, non pas utilisées, et c'est très important de le dire, non pas comme vous le dites, ils créent des figures, mais ces figures-là, c'est pas juste des métaphores. Il y a cette phrase à la fin du texte, quelque chose se produit, des effets de machine, et non des métaphores. Mmh. C'est-à-dire que le schizophrène, la figure du schizophrène, elle est pas là juste pour illustrer un propos un peu pseudo-transgressif en disant, regardez, la folie, c'est cool, ça bouleverse un peu le centre. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus fondamental. Comment on peut l'expliquer, ça, Claro ?
Je pense que leur idée qu'il n'y a pas de métaphore, parce que la métaphore, chaque fois, ça veut dire que c'est un dédoublement et on est, au final, dans quelque chose de l'analogie du comparatif. Et en fait, pour eux, l'analogie et le comparatif, ou l'imitatif, c'est quelque chose qui est sclérosé, qui est figé, etc. Alors que, si on commence à dire le désir produit du réel, et les choses ne s'arrêtent pas, et c'est les flux, et il faut les suivre, on n'est plus dans une métaphore. On n'imite pas les choses, le fou n'imite pas le fou, enfin, en gros, ce qui va être la pensée psychiatrique d'avant. Et leur idée, est d'opposer ça comme quelque chose d'insaisissable. Puisque, il faut quand même... c'est un livre un petit peu... il s'appelle « Capitalisme et schizophrénie ». Donc, ils sont quand même une position très très nette qui marche très bien d'ailleurs avec la pensée de Foucault par rapport à l'État, le monstre froid qui essaie de tout codifier.
Vous, je l'ai dit, vous êtes écrivain, traducteur, éditeur. Cette phrase, quand même, elle est pas anodine. Produire des effets de machine et non des métaphores. Il y a un peu des questions tartes à la crème qu'on pose souvent aux écrivains sur la fiction, le rapport au réel, insupportable question sur le rapport au réel. Là, on a pourtant cette thèse-là. On a quand même cette thèse de quand on produit quelque chose, c'est du réel, c'est pas une image. Mmh. Comment vous l'entendez ?
Moi, après, je l'ai entendu...
Vous la posez, cette question sur le rapport au réel ?
Dans ma pratique d'écrivain, c'était déjà même de mettre même des machines dans mes livres, comme un écho à ce que faisait Deleuze et Guattari, et justement de les faire fonctionner avec le réel. Donc, par exemple, dans livre 19, il y a le motif de la machine infernale en tant que bidule trafiqué, une espèce de pré-bombe comme ça, et en fait est machinée avec tout le climat politique du 19e siècle. Après, j'ai fait aussi la chaise électrique.
cette machine électrique.
Voilà, je continue à bricoler comme sorte d'engin qui permet à la fois de travailler le désir et à la fois de voyager dans le temps. Donc oui, moi ça me parlait, cette histoire que...
Vous ne sentez pas créateur d'image, c'est ça que je veux dire.
Non, il faut de connexion, de choses qui fonctionnent entre elles. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un objet comme ça qui serait isolé. Il faut que ça fonctionne, hein, c'est ce qu'ils disent un peu dans le premier chapitre. Bon, à la fois, j'ai pas pris non plus l'Antiodipe comme une suite de mots d'ordre, même si au début on est très séduit par.
Oui, et puis vous l'avez quand même vu comme un manuel.
Des castors juniors.
Oui, de castors juniors. Vous avez quand même parlé des castors juniors. Mais d'ailleurs, vous avez envoyé pour qu'on prépare cette émission à Manon Delasselle le texte que vous vouliez entendre. Donc, on a une photo en fait de votre édition. Moi, je l'ai imprimée et donc on voit que vous l'avez complètement annoté. C'est des annotations notation que de 1980, oui. Là, que j'ai sous les yeux. Vous annotez tout, partout. Il y a des flèches partout. Le ça, première critique de la psychanalyse. Vous entourez, vous coupez, vous soulignez Anus, Bataille, œuvre complète, tome 1. Enfin, vous étiez un lecteur actif. Et c'est même un peu émouvant, non, de retrouver. Parfois, on relit nos notes d'avant, on se trouve un peu ridicule.
Mais... Surtout que je pense que j'ai arrêté complètement d'annoter les livres après ça. Mais là, comme ça grouille. Hein. Ça grouille de référence, quand même, l'Anti-Oedipe. Il vous dit Schreber, il y a pas tout de suite la note en bas de page. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte, là? Ça veut dire quoi, Anus solaire? Voilà. Est-ce que c'est par rapport à Bataille? Est-ce que c'est justement ce Schreber? Donc après, je vais voir dans tous les sens et je prends ce qui m'intéresse. Il y a des, on va dire, des zones, des régions où je suis pas forcément allé. J'ai essayé, mais Jean Klossowski, par exemple, ça m'a pas parlé. Voilà. On peut pas tout absorber, hein, de l'Anti-Oedipe et encore moins de 1000 plateaux.
Et alors, ça vous a fait quoi de revoir vos notes? Rien, hein, peut-être.
Si, mais ça me paraît tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est pas une Madeleine de Proust, hein, mais c'est. Je le relisais un petit peu avant de venir et je recommençais à souligner des choses. Donc je me suis dit, oui, c'est sans fin.
Mais vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis qu'on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne la plus cachée.
Il y a énormément de choses à dire, Claro, sur cette archive d'Antonin Artaud qui date du 28 novembre 1947, qui s'intitule « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Et déjà, la première chose, c'est que ça devait être diffusé, cette œuvre radiophonique, le 2 février 1948. Mais le directeur de la RTF a décidé de la censurer à la veille de sa diffusion. Et c'est donc 25 ans plus tard, dans les années 70, que sera diffusée cette archive. Et on voit toute la présence d'Antonin Artaud dans l'Anti-Oedipe et dans Mille Plateaux. La figure du schizophrène, c'est lui. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez dit, Claro, que si vous aviez pu peut-être lire l'Anti-Oedipe à 18 ans, c'est qu'entre-temps, il y avait eu Artaud. C'est qui Artaud? Qu'est-ce qu'il représente?
Alors, je pense que voilà, l'œuvre d'Artaud, elle est immense. Je pense qu'il y a plus de 20 volumes maintenant, dans les années...
Moi, j'en ai jamais lu. Je vous fais une confession, j'en ai jamais lu.
Ça viendra. Mais moi, quand je le découvre, en fait, je tombe sur un volume qui s'appelle « Histoire d'Artaud le Momo », où il y a effectivement en gras aussi ses glossolalies. Et je suis complètement étonné parce que j'ai commencé à m'intéresser à la poésie, mais ça, j'avais jamais vu. Et tout d'un coup, il y a une espèce, c'est vraiment une voix qui vient d'un corps et qui parle et qui dit des choses d'une violence incroyable en ayant l'impression d'avoir déjà déstructuré tout le langage. Et qui tient ce discours, effectivement, qui va intéresser Deleuze et Guattari, où il dit, je n'ai pas à papa, mama, c'est-à-dire je n'ai pas de père et de mère, je me fais moi-même, je me construis, je veux un corps sans organes. Effectivement, il y a énormément de choses d'Artaud qui ont été décisive dans le début de cette pensée anti-psychanalytique de Deleuze et Guattari. Et moi, ça me parle. Alors, évidemment, quand vous avez 16 ou 18 ans, vous découvrez à la fois Artaud et Deleuze, forcément, comme vous êtes plus ou moins en pleine crise d'adolescence, le fait de se dire « je ne me définis pas par rapport au père et à la mère », ça peut effectivement parler.
Tout changer.
Ça peut tout changer. Mais c'est aussi un rapport au langage. C'est-à-dire que est-ce qu'Artaud, c'est encore de la littérature? En tout cas, c'est une question qui se pose. Il y a une telle sincérité, il n'y a pas de filtre, mais il y a à la fois un travail sur la langue qui est incroyable et qui, à l'époque, Alors c'est bizarre parce qu'il y a des choses qui vous parlent, qui vous prennent aux tripes, qui vous prennent à l'esprit, mais en fait, vous ne savez pas forcément pourquoi. Et soit vous essayez de vous demander pourquoi ça me parle alors que je suis pas sûr de comprendre ce que veut dire Artaud quand il dit pousser la poussée psycholubrique ou des choses comme ça, mais ça vous parle. Alors, où vous cherchez, puis en fait, vous vous arrêtez, ou vous, en fait, vous continuez, vous restez dedans, et ça finit par vous parler, je pense, à un niveau subconscient. Mais on peut pas à la fois tout décortiquer et se laisser emporter. Donc, moi, je me suis laissé emporter par Artaud, comme par Deleuze et d'autres écrivains, en n'étant jamais gêné par les opacités ou les zones obscures. Ça viendra, on aura un jour, la référence va arriver, on va tomber dessus et on comprendra mieux et on va revenir, etc. Et on n'est pas uniquement dans un pur processus intellectuel de
méthode, de lisibilité.
Voilà. Faut mieux défricher que déchiffrer, on va dire, dans un premier temps. Il faut, voilà. Et puis les choses surgissent. Et puis de toute façon, c'est comme toute lecture littéraire. Il y a des zones d'ombre. Et c'est pour ça que ça marche.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre, en fait, un livre pour y adhérer pleinement? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question pour Deleuze et Guattari, pour l'anti-Oedipe, se dire, voilà, c'est de la philo, mais c'est pas de la philo. Mmh. Ça détonne encore dans les livres de philo. Les livres de philo ne s'écrivent jamais, en fait, de cette manière-là. Artaud, vous avez posé la question, est-ce que c'est encore de la littérature, tant il y a quelque chose de l'ordre de la sincérité, et on n'arrivera jamais à trancher. Est-ce que c'est grave, finalement? C'est une idée que vous défendez dans votre essai sur l'échec, qui est très intéressante, c'est que finalement aussi, en fait, on ne fait que essayer, rater, parce qu'en fait, il y a une différence entre la littérature, on pourrait dire aussi la philosophie, et la communication, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans la transparence et dans la compréhension.
Oui, parce que je pense qu'on est dans l'apprentissage. De même qu'on apprend à lire, après, on apprend à lire Artaud, il a sa propre langue, on apprend à lire Deleuze et Guattari, ils ont leur langue. Les grands écrivains, voilà, c'est ce que disait Proust et que cite évidemment Deleuze et Guattari. Quand Proust dit que les chefs-d'œuvre sont écrits dans une espèce de langue étrangère, il faut apprendre à la lire.
Est-ce qu'on finit d'apprendre ça?
Est-ce qu'on finit de l'apprendre? Non, mais on la maîtrise. C'est-à-dire que quand vous commencez, par exemple, la recherche du temps perdu, vous apprenez à lire du Proust. Vous ne savez pas. Il y a que en le lisant qu'on va comprendre que, voilà, sa phrase qui est infinie, c'est pas du tout une phrase infinie. Elle est déhanchée. Il pourrait mettre des points, évidemment, mais il veut pas. Donc on apprend toute la grammaire, le lexique de chaque écrivain. Et voilà, au bout d'un moment, mais c'est évidemment infini. Hein. Toute personne qui relit, que ce soit Deleuze ou même Beckett, chaque fois on redécouvre d'autres choses parce que notre expérience a comblé des vides et peut-être en a créé d'autres aussi qui permettent une libre circulation comme ça de l'air intellectuel.
Alors c'est aussi à Artaud que Deleuze et Guattari empruntent le concept de corps sans organes. Ouais, c'est un concept qu'Artaud met en place. En fait, il le cite dans son livre Les Tarahumaras, qui date de 1945. Donc les Taharu-Humaras, pardon, c'est le nom d'un peuple amérindien qu'il a rencontré en 1936 au nord du Mexique. Le corps sans organes, c'est un corps qui n'est donc pas limité à ses organes. C'est un plan à partir duquel s'effectue le désir. C'est quand même un concept qui est extrêmement compliqué. En fait, pour le dire autrement, et très simplement, Artaud déclare la guerre aux organes. C'est ce que Deleuze et Guattari vont dire. On peut dire, et vous l'avez évoqué, Claro, on peut dire aussi que Artaud déclare la guerre au signifiant. Ça, c'est intéressant parce que le signifiant en psychanalyse, c'est un énorme truc, j'allais dire, une énorme affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une sorte de sens, en fait. Il faut presque tout le temps tout redéfinir ce qu'on dit, ce qui est presque infini.
En fait, ils essayent vraiment de se battre contre tout ce qu'ils appellent une pensée binaire. Donc voilà tout ce que, quand la linguistique... à partir de Saussure, commence à nous faire le couple signifié-signifiant. Pour eux, ça va plus. C'est que il y a quelque chose qui a été complètement figé. Pour eux, c'est des flux de désir qui passent et ces catégories signifiant-signifié sont pas opérationnelles pour eux en tant que couple. Donc, ils passent leur temps effectivement à essayer de nous faire voir, de nous faire entendre les choses de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique, et de pas rester là-dedans. Et Artaud, c'est ça, quoi. Artaud, c'est il y a une explosion du langage qui fait
que le signifiant ne fait plus signe vers ce qui est signifié, vers l'objet, mais en fait vers toute autre chose. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre quoi comme exemple de signifiant explosé par Artaud
Je sais pas, mais c'est comme l'idée qu'un livre, en fait, un livre, en fait, il se raconte lui-même. Il se raconte la façon dont il est fait. Il n'est pas juste une description d'un monde extérieur, etc. En fait, il cache à l'intérieur de lui, plus ou moins, les propres secrets de sa fabrication. Et c'est un livre sur lui-même. C'est pour ça aussi qu'ils sont intéressés, d'ailleurs, comme Foucault, à Raymond Roussel, où il y a, voilà, il y a un code génétique, il y a un ADN qu'il faut arriver à... Alors, qui est hyper caché chez Roussel, mais qui, pour eux, voilà, et c'est ce qui fait fonctionner le livre. Ils opposent justement les livres comment dire racines, les livres arbres, où voilà on a une base et puis le tronc monte et puis ça fait des branches et puis voilà une narration traditionnelle et puis ça se termine par les petites feuilles, c'est rigolo. Et eux, pour eux, cette idée du rhizome qui est quelque chose de plus souterrain, qui renvoie aussi à toute la mythologie de la taupe chez Kafka, du terrier, c'est que ce qu'on pourrait appeler trivialement, c'est de la digression. Mais c'est des digressions qui doivent toutes se machiner entre elles, qui doivent se rencontrer, qui doivent et qui produisent forcément autre chose.
Ce que vous évoquiez aussi à propos du bégaiement, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plein de directions qui voilà, se redisent, se répètent, mais en fait, sont entérinées, enfin, s'entérinent d'une certaine manière.
Oui, c'est-à-dire que c'était le bégaiement, en fait, c'est pour eux, c'est une production d'un énoncé comme ça qui se fait par des rapages, par des strates qui se frottent. Hein. Mais ils ont tout un langage. C'est étonnant parce que des fois ils ont un langage très techniciste. Des fois c'est géologique. Des fois c'est très végétal. Des fois c'est très animal.
C'est de plus en plus végétal d'ailleurs. Plus on avance vers les années 80, plus ils deviennent végétalistes.
Et ils vont même au-delà parce qu'il y a cette idée absolument merveilleuse du devenir imperceptible chez eux.
C'est quoi ça,
devenir imperceptible? Là on entre dans un concept où en fait c'est il y a plus de jeu, il y a plus de huile, on est une espèce de connecté. Alors je sais pas s'il faut prendre du peyote comme marteau pour arriver au devenir imperceptible, mais il faut remettre aussi dans le contexte qui était aussi celui de Foucault quand il parlait ou de Barthes de la mort de l'auteur, etc. C'est que ils veulent qu'on en finisse avec le jeu, avec l'ego. Voilà, quand ils disent je fais ceci, on sait souvent. On comprend très bien que c'est pas je qui dis ça, c'est la police à travers nous, ou c'est l'histoire, ou c'est les profs, ou c'est le psychanalyste, etc. Donc il faut arrêter de croire que je crée l'identité, et ils essayent un peu de briser ça, ils préfèrent un on, finalement, qui est beaucoup plus dilaté.
Est-ce que l'acte de peindre peut être défini sans cette référence à une catastrophe qui l'affecte? Est-ce qu'au plus profond de lui-même, l'acte de peindre n'affronte pas, ne comprend pas cette catastrophe, même lorsque ce qui est représenté n'est pas une catastrophe? Donc il s'agit d'une catastrophe plus profonde qui affecte l'acte de peindre en lui-même, au point que l'acte de peindre ne pourrait pas être défini sinon. L'exemple pour moi fondamental, c'est Turner. Il a comme deux périodes. Dans la première période, il peint beaucoup de catastrophes. Ce qui l'intéresse dans la mer, c'est les tempêtes. Ce qui l'intéresse dans la montagne, c'est souvent des avalanches. Il a déjà bien du génie. Qu'est-ce qui se passe vers 1830? Tout se passe comme si il entrait dans un nouvel élément, si profondément, pourtant qu'il reste lié à sa première manière. Ce nouvel élément, c'est quoi? La catastrophe est au cœur de l'acte de peindre. Comme on dit, les formes s'évanouissent. Ce qui est peint et l'acte de peindre tendent à s'identifier sous quelle forme? Sous forme de jets de vapeur, de boules de feu, où plus aucune forme ne garde son intégrité, où simplement des traits suggèrent, on procède par traits, dans quoi? Dans une espèce de brasier, comme si tout le tableau la sortait d'un brasier. Une boule de feu, dominante célèbre de Turner, le jaune d'or.
Extrait du tout premier cours de Gilles Deleuze sur la peinture. On était le 31 mars 1981. Ces cours, ils ont été publiés, édités par David Lapoujade aux éditions de Minuit. Il y a des cours de mars à juin 1981. C'est vous, Claro, qui nous avez suggéré ce texte que je ne connaissais pas. Et il y a cette idée qui me frappe en lien avec le premier texte quand il dit « les formes s'évanouissent. Quand il parle de la catastrophe chez Turner et d'autres peintres aussi, les formes s'évanouissent. Ce qui fait penser à cette dernière phrase sur on ne produit pas des métaphores, en fait. On produit du réel. Il y a quelque chose de l'ordre de la force et non pas de la forme avec Deleuze.
Bah, c'est là où c'est passionnant de voir qui va vers Turner, parce que Turner n'est pas, en tout cas théoriquement et même pratiquement, un peintre abstrait. Et donc, il oblige à complètement redéfinir la façon dont on regarde un tableau. C'est-à-dire que avant Turner, n'importe quel tableau, il y a un récit derrière. Ça peut être biblique, historique, etc. On peut dire qu'il y a, voilà, on peut dire qu'il y a des pommes sur une table, on peut dire qu'il y a un crâne. On peut toujours décrire. C'est-à-dire que ça fait toujours référence à une possibilité de langage, à un discours, en gros. Et avec Turner, qui, voilà, l'abstraction, elle n'existe pas encore. En fait, on est complètement démunis. Je suppose que les critiques de l'époque étaient démunis devant les derniers Turner des années 40. Ça échappe à la description. Donc, on est obligé de parler au bout d'un moment de ce qui se passe au niveau de la forme et de la couleur. On peut plus se rattacher, être sauvé par un récit. Et évidemment, ça intéresse Deleuze parce que, lui, je pense qu'il y voit aussi ce devenir imperceptible, ce devenir évanescent, ce moment où la forme échappe à ses impulsions. Et voilà, alors c'est peut-être un brouillard, c'est peut-être un soleil qui agonise comme ça dans des reflets marins, c'est peut-être une explosion, c'est peut-être un incendie, mais pour lui, c'est juste la forme qui s'arrache à tout ça.
Et qui prend le terme de catastrophe. Deleuze commence son cours en disant... Alors ça, déjà, j'aime beaucoup cette idée. Il dit, déjà, je ne vais pas vous montrer de peinture. C'est-à-dire que je vais en parler. Je vais parler de Cézanne. Je vais parler, là, on l'entend, de Turner. Mais je ne vais pas vous montrer de peinture. Ce ne sera pas un cours pour vous donner l'essence de la peinture, pour vous expliquer telle ou telle peintre, telle ou telle peinture. Mais il part de cette idée. Il dit que quand on va dans un musée, on s'aperçoit quand même que ce qui est majoritairement représentés, ce sont des catastrophes. Et chez Turner, on a d'abord des catastrophes, il va dire, locales, c'est-à-dire vraiment des représentations d'avalanches, on l'a entendu dans le texte, de tempêtes. Et après, en fait, la catastrophe, ça va être une catastrophe visuelle, un effondrement. Et en fait, j'ai été frappée, je me suis dit, mais pourquoi on se le dit pas aussi simplement que ça à propos de la peinture, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'effondrement visuel, du chaos, de la catastrophe, et après, une catastrophe duquel ressort des choses, il dit de la couleur, lui, mais peut-être parfois rien aussi.
Oui, mais cette idée de catastrophe, elle est très efficiente, elle est à la fois très simple, parce que voilà, une catastrophe, ça veut dire, c'est un peu comme s'il disait une apocalypse, c'est-à-dire au sens originel, quelque chose qui est complètement renversé. Et donc là, c'est la forme de la couleur qui prend le dessus sur la représentation et qui lui échappe complètement. Et c'est ça la catastrophe. C'est une forme de, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas je pense pas, c'est pas quelque chose qui va vers le chaos, même si on se demande si Turner y peint quoi, un monde qui est en train de finir ou un monde qui est en train de commencer, le monde industriel qui produit voilà justement des émanations, mais la catastrophe voilà c'est un renversement, c'est une prise de pouvoir tout d'un coup des forces. Ah, parce que Deleuze, il pense quand même en vitesse et en intensité.
Mais c'est exactement... C'est ça aussi qui rend l'anti-Œdipe assez difficile. Par exemple, d'en parler en disant qu'est-ce que ça produit. Alors, on peut dire ce que ça produit quand on est lecteur ou lectrice. C'est difficile de dire comment c'est construit, ce que ça fait, ce qu'on en tire en tant que tel. Parce que ce soit en littérature ou en peinture, il y a quelque chose de l'ordre de la catastrophe dans le texte lui-même, dans l'image qu'on voit.
Je suis pas sûr de... Je pense qu'il faut vraiment toujours revenir à cette idée que c'est quelque chose qu'ils ont... Deleuze et Guattari, ils ont donné tous ces concepts et débrouillez-vous avec ça. Faites-en quelque chose. Et de toute façon, vous les aviez peut-être. Hein, c'est aussi quand il... Je sais plus, il cite la phrase de George Jackson, il dit « Je fuis, mais pour chercher d'autres armes ». Et c'est vraiment... c'est des injonctions, mais qui sont pas non plus péremptoires, qui sont « Débrouillez-vous avec ça, bricolez, faites ça, nous on va passer à autre chose
». Nous, on a fait notre truc, c'est bon.
Voilà, après, ils ont refait aussi Kafka pour une littérature mineure, tous les deux. Chacun, après, y allait dans une direction, mais c'est... Voilà, nous on a machiné des choses. Ils sont mis à deux, hein. C'est pour ça que la machine, c'est deux désirs qui se sont comme ça combinés tous les deux. Et après, c'est C'est pas comme des philosophies ou, qui vous suivent que, comme ça, comme des chariots un peu lourds, etc. Là, c'est quelque chose qu'il faut laisser infuser, diffuser. Il faut s'en libérer aussi. C'est pas des choses à appliquer nécessairement. Mais je pense qu'une fois qu'on les a intégrées, ben, elles vont évoluer, elles vont devenir autre chose et elles vont nous donner de nouvelles armes conceptuelles, mais qui ne vont pas nous amener vers des métaphores, qui vont nous obliger à fabriquer des objets d'art ou des objets de pensée.
Mais c'est difficile de se libérer d'un auteur ou de deux auteurs qui n'étaient pas tyranniques.
Est-ce que c'est difficile de se libérer de quelque chose qui n'est pas tyrannique ?
Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune raison de s'en échapper, puisqu'en fait, on n'a pas d'effet de domination.
Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais comme ils ont quand même toute ce discours entre guillemets sur la ligne de fuite, et ben c'est à son tour, on doit faire fuir Deleuze et Guattari quand même.
Ouais,
il faut y arriver. Je pense que c'est possible. Hein. Enfin, sinon, je serais pas là.
Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train d'écrire Claro sur William Turner, c'est de lire les cours qui ont été édités qui vous a donné cette envie-là.
Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, bon, on va pas rentrer dedans parce que là, ça referait une heure sur les rapports entre Ruskin qui a brûlé soi-disant tous les tableaux de Turner.
Oui, il le dit d'ailleurs. Deleuze dit, c'est, oui. On ne sait pas si c'est un geste le pire de l'histoire de l'art ou le plus magnifique, parce que ça voulait dire qu'il avait tout compris de Turner.
Donc ça m'a interpellé cette histoire et évidemment tout le passage précédent qu'on a entendu sur la catastrophe. Et je me suis rappelé quand même qu'à une époque, mais il y a très longtemps, j'avais été tellement impressionné par le livre Logique de la sensation de Deleuze sur Bacon, là, qui était aux éditions La Différence en deux volumes, que je m'étais mis à écrire aussi une espèce d'ouvrage post-deleuzien sur mais le dernier Bacon. Et en lisant ses cours sur la peinture, je me suis dit peut-être c'est une occasion pour moi d'écrire effectivement un dernier clin d'œil à ce que Deleuze m'a apporté, et en passant par Turner, mais sans faire un livre deleuzien. Mais en tout cas, c'est voilà. Ça veut dire qu'en me replongeant dans Deleuze, il y a encore des choses qui me dirigent ailleurs, qui me catapultent dans d'autres directions.
Et qu'est-ce que vous voulez dire sur Turner ? Vous en êtes où de l'écriture ? Vous êtes au tout début ? Vous avez déjà
Non, j'ai quasiment fini, mais voilà, j'ai fini, mais comme ma femme l'a lu, c'est comme si j'avais pas fini du tout, parce que forcément, elle me donne des très bons conseils, elle m'explique que les choses ne sont pas finies, donc je retravaille, mais voilà, ça prend une bonne tournure.
Et qu'est-ce que vous voulez dire sur Turner ?
C'est uniquement en rapport avec Ruskin. Pourquoi Ruskin dit-il avoir détruit ses œuvres ? Est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il l'a pas fait ? Et pourquoi ? En fait, c'est un rapport au corps, au bout d'un moment, qu'il y a. Et donc, j'essaie de voir dans la vie de Turner et dans la vie de Ruskin, quel est le rapport au sexe des femmes, tout simplement, et qui finit par être expliqué à un moment, et on comprend pourquoi. Non, il a brûlé. Ou en tout cas, il a dit qu'il avait brûlé.
Being a man living in a garbage pail. My landlady called me up. She tried to hit me with a mop. I can't stand it anymore, can't stand it anymore, can't stand it anymore, but if Shirley would just come back, it'd be alright. Just come back, it'd be all right. I live with 13 dead cats, a purple dog that wears spats. They're living out in the hall, and I can't stand it anymore. I can't stand it anymore, I can't stand it anymore, I can't stand it anymore, but if Shelley would just come back, it'd be alright. Shelley would just come back, it'd be alright.
Voilà, avec la fin de la chanson que notre réalisateur Nicolas Berger aime bien, c'était Le Velvet Underground, I Can't Stand It. Alors, et cette chanson, Claro, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, je le répète, place à un auteur que vous n'aimez pas, ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire, ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Oui, alors effectivement, là, on ne peut pas parler de résistance, parce que c'est un... Je pense que c'est, enfin, en tout cas, pour moi, c'est un objet bien trop mou. Donc, il n'y a pas de résistance. Mais voilà, je suis toujours étonné par le renom qu'a eu Christian Bobin.
Donc, poète, écrivain.
Paix à son âme. Je ne suis pas là pour tirer sur le corbillard, mais voilà, moi, c'est une poésie qui ne me parle pas du tout. Peut-être parce qu'elle est. Elle est très horizontale, elle est plus, il me semble, dans le dire que de l'écrire, elle est pas simpliste, hein, parce que ça serait méchant de dire ça et qu'elle parle forcément aux gens, mais moi j'avoue que c'est pas du tout, c'est le contraire pour moi de ce que peut être une écriture poétique, où on prend des risques, où on s'avance dans l'ombre, etc. Et là, il y a quelque chose de, pour le dire un peu méchamment, de béni oui-oui. Alors béni oui parce que c'est quand même très religieux, et oui-oui parce que, voilà, dès que je lis du Bobin, j'ai toujours cette image du personnage de oui-oui avec son petit bonnet et son grelot, et j'ai l'impression d'entendre le grelot de oui-oui à chaque retour à la ligne.
Voilà. Donc vous regardez les vers?
Et
vous voyez oui-oui s'agiter, voilà. Un peu comme une image subliminale, mais permanente.
Exactement.
Quoi.
Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'aime bien le personnage de oui-oui, mais du coup, je vois pas...
Ça n'a pas valorisé.
Je trouve ça dommage qu'il ait été embarqué dans cette aventure littéraire qui est celle de Christian Bobin, et voilà, qui ne me parle pas. Mais
quelle différence vous faites entre le dire et l'écrire ?
L'écrire, c'est-à-dire que je sens derrière qu'il y a un corps, quand même que le langage est passé par la moulinette du corps, etc. C'est des questions d'affinité. Hein. Alors que le dire, on sent que c'est linéaire, ça va droit d'un ersatz de pensée à un début de parole.
Mais est-ce qu'on peut se tromper parfois ? On se dit, il n'y a pas de corps derrière, il n'y a rien. Et puis en fait, quand même, l'auteur, il a quand même... Vous voyez, il y a quelque chose d'injuste parfois quand on est lecteur.
Bien sûr, moi je me suis trompé très souvent. Je me rappelle l'époque où je lisais un paragraphe d'Annie Ernaux et ça me tombait des mains. Et où après, j'ai réussi à entrer dedans et je suis devenu arnophile.
Merci beaucoup, Claro. De vous, on peut lire L'échec, donc c'est un essai qui est paru aux éditions Autrement. On peut aussi lire Des milliers de ronds dans l'eau, c'est paru aux éditions Actes Sud. Et on peut aussi lire votre traduction et votre postface de Le ministère de la peur de Graham Greene, qui est paru donc dans une nouvelle traduction, la vôtre, aux éditions Flammarion, et d'autres traductions à venir. Et pour lire L'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, c'est disponible avec 1000 plateaux et tous les livres de Deleuze, aussi ses cours sur la peinture, aux éditions de Minuit. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé cette émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie.